Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette 9e séance du Procès du siècle organisée par le MUCEM avec comme thème aujourd'hui « Marchons-nous sur la tête ?» 30% simplement de notre tête est composée de sol, 30%, c'est-à-dire que les 70% restants, ce sont des océans. Et ces 30% sont exploités, piétinés, construits, mais aussi parfois entretenus, sauvés, défendus. Ces sols qui nous nourrissent et ces sols qui nous portent, nous allons aujourd'hui en parler, car il se plaint, le sol, de maltraitance, d'empoisonnement, de pollution, d'exploitation. Avec nous pour discuter et pour mener ce grand procès du siècle, Philippe Le Gall, entomologiste, secrétaire général de l'Association entomologiste de France, la plus vieille du monde, et Marc-André Sellos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, auteur de différents livres dont le dernier s'appelle « L'origine du monde », professeur dans différentes universités. Messieurs les experts, bonjour.
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 Peut-être pour commencer ce procès du siècle, essayons de dresser le bulletin de santé de la Terre. Cette Terre qui donc se porte pas si bien. Est-ce que Marc-André Sellos, vous pouvez nous en dire qu'est-ce que les éléments? Est-ce que vous pouvez nous dresser ce bulletin de santé? Comment va le sol et la Terre aujourd'hui?
Alors la Terre, au sens du sol qu'on a sous les pieds, va pas forcément très bien, mais pas non plus complètement mal. Pas très bien parce qu'effectivement, on a tout un tas de pratiques qui sont incompatible avec la vie du sol qui n'avait jamais connu ça. Les organismes du sol sont confrontés à des choses que dans l'évolution, ils n'ont jamais rencontrées. Par exemple, le labour. Si vous êtes un champignon fait de filaments microscopiques, votre corps est déchiré par le labour. Et le labour, c'est quelque chose qui va modifier la vie du sol. Par exemple, les intrants, vous savez, c'est par exemple les pesticides. Il faut savoir que le glyphosate est toxique pour certains champignons, notamment des champignons qui aident les plantes à se nourrir dans les sols. Donc finalement, c'est pas très bon pour la nutrition des plantes. Ou encore toxique pour des vers de terre. Les engrais aussi. Les engrais, c'est des choses qui perturbent complètement la vie du sol. D'habitude, la fertilité, elle arrivait sous forme de matière organique morte. Au total, on se retrouve avec des sols qui ont des tas de problèmes. Une étude dans la plaine de Chizé, donc dans les Deux-Sèvres, qui a été publiée il y a quelques années, montrait que 90% des sols abritent au moins un insecticide, un fongicide, un herbicide. C'est vraiment des chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, ces sols vont mal et la vie du sol s'écroule, mais n'est pas complètement à terre. C'est pas l'agriculture qui abîme le plus les sols. Là où les sols sont, si j'ose dire, vraiment à terre, c'est-à-dire où ils sont en train de mourir, c'est sous l'extension de nos villes et de nos infrastructures de transport. Alors là, quand on bétonne, il n'y a plus rien. Actuellement, en France, tous les 7 à 10 ans, c'est l'équivalent d'un département français de taille moyenne qui disparaît. Néanmoins, il n'est pas trop tard pour réagir. Nous sommes là sur quelque chose qui, moyennant des changements de pratiques qui commencent à être expérimentés, moyennant une prise de conscience des consommateurs et des aménageurs, vous le voyez, des villes, nous sommes face à quelque chose qu'on peut juguler, que l'on peut améliorer si on réagit maintenant.
C'est vrai que là, beaucoup de problématiques viennent d'être en quelques minutes soulevées. Nous avons regardé tout à l'heure, c'est environ 40% de cette terre et de ces sols qui sont consacrés à l'agriculture. Donc c'est une problématique extrêmement importante. Mais avant de rentrer justement dans ces différents usages, peut-être expliquons ce que sont ces sols. Marc-André Sellos, ce que je trouve intéressant dans ce que vous soulevez, c'est que ces sols-là, on les connaît encore finalement pas si bien que ça, et notamment ses habitants.
Marc-André nous a beaucoup parlé des champignons, mais les sols, et on peut le comprendre, et les sols abritent un monde vivant. Et en fait, les sols sont issus de l'activité de ce monde vivant. Le sol est vivant et il n'abrite pas seulement des plantes, les racines des plantes, les champignons. Il abrite aussi toute une faune animale qui est extrêmement importante et très diversifiée et qui, en plus, aujourd'hui, est très, très mal connue. Donc on est en train d'abîmer quelque chose, comme dans beaucoup de choses que fait l'homme, il abîme quelque chose qu'il ne connaît pas et dont il n'a peut-être même pas conscience. Alors, pour donner deux petits exemples très succincts, on est en Provence ici, et il y a 2 ans, 3 ans maintenant, en 2019, un de nos collègues décrivait 32 nouvelles espèces de coléoptères des sols de Provence, des espèces nouvelles pour la science, donc qui n'avaient jamais été décrites, et dont déjà, malheureusement, il écrivait que certaines avaient disparu avant même d'avoir été décrites par ses soins. Et enfin, il y a eu la planète revisitée qui s'est passée en Corse. Vous savez, ce sont des grandes expéditions du muséum. Et ces grandes expéditions se faisaient souvent sur des cieux lointains. Et là, elle s'est réalisée en Corse sur les vers de terre dont nous a déjà parlé Marc-André, et qui sont, comme tout le monde le sait, les animaux les plus emblématiques du sol. Eh bien, il y avait rien que sur une expédition en Corse, un de nos collègues de Montpellier, Thibaut Decamps, a pu trouver 8 espèces nouvelles de vers de terre, pour la science toujours, et il y en a qui se décrivent donc chaque année. Et on a cette extraordinaire diversité biologique qu'on méconnaît, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'on détruit avant même de l'avoir connue.
Ça, c'est un des points importants, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les habitants du sol. Peut-être que Marc-André Sellos, un sol, c'est quoi ? On considère que c'est quelle profondeur par rapport à la surface de la Terre, ça va jusqu'où, c'est composé, vous avez cité quelques éléments de sa composition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les mystères de ce sol ? Là, tout à l'heure, Philippe Le Gall vient de nous donner quelques éléments sur ses habitants, rapidement, mais un sol, c'est quoi ? Quelle épaisseur ?
C'est simple et c'est compliqué la réponse à cette question. Le sol, c'est ce qui est entre la roche et l'air. Vous allez vous trouver là, bien sûr, de l'air dans les trous. Bien sûr, des petits morceaux de roche qui sont en train de se dégrader, mais aussi de la matière organique, faite de tous les cadavres et les morceaux de plantes qui tombent à terre. Et puis, comme Philippe le disait, tout un tas d'animaux, bien sûr des microbes et les racines des plantes. N'oubliez pas qu'un tiers de la biomasse de la plante se trouve sous terre. Donc il y a là un mélange de vie, de cadavres, de matière organique. Et ça va être présent sur des épaisseurs variables. D'une certaine façon, quand vous avez une espèce de pissure un peu grise sur une falaise ou sur les murs d'un bâtiment, c'est un tout petit mini-sol de quelques dixièmes de millimètre. C'est ce qu'on appelle un biofilm. Mais techniquement, il s'y passe la même chose que dans les sols. Après, quand vous êtes dans la Beauce, là, vous en avez pour 1 ou 2 mètres d'épaisseur minimum. Si vous allez sous les tropiques, et même si les parties profondes ne sont pas très actives biologiquement, un sol peut faire plusieurs dizaines, voire une centaine de mètres d'épaisseur. C'est cette interface entre l'air et la roche. Et dans cette interface, il se produit, le vivant est actif sur tout. Il transforme l'azote atmosphérique en azote utilisable par le vivant, il transforme les roches, il aide à les dissoudre en libérant des oligoéléments, du phosphore, il dégrade, il décompose la matière organique en libérant en fin de dégradation de nouveau de l'azote, du phosphate. Et bref, c'est une gigantesque usine, le sol, à détruire l'air, à détruire la roche, à détruire la matière organique, mais lentement, avec une lenteur qui fait que les produits intermédiaires sont accumulés là pour quelques temps. Et le produit final de tout ça, c'est de la fertilité.
Un point important, le premier service que le sol peut-être rend à la Terre et dans son entier, c'est cette fameuse capture de carbone. En effet, que le sol se nourrit d'abord de l'air, se nourrit d'abord des plantes. Je ne sais pas si peut-être vous voulez en dire un mot pour qu'on comprenne bien à quel point cette Terre nous rend service.
Ce qui se passe dans notre environnement, c'est que nous avons ces grandes quantités de carbone qui sont présentes dans l'atmosphère et les plantes captent ce carbone, vont le stocker. Une plante, comme tout être vivant, a une vie relativement limitée. Et donc, à la fin de cette vie, le carbone qui est présent dans la plante peut suivre différentes voies. Si la plante est brûlée, vous avez un retour direct dans l'atmosphère. Si la plante est consommée par des animaux, par des micro-organismes, et transformée tout doucement en cette matière organique qui est l'humus, qui est la litière, qui est d'abord la litière, puis l'humus, etc., vous avez un passage, un transfert lent du carbone qui est stocké dans l'arbre ou dans la feuille ou dans la tige vers ce sol. Et c'est à ce niveau-là que le carbone va être géré, va passer de micro-organisme en micro-organisme, d'organisme en micro-organisme. Et on a donc un cycle long qui permet à ce carbone d'avoir une vie prolongée dans le vivant et ne pas retourner directement dans l'atmosphère. Je crois que c'est le plus simple, c'est de dire que le vivant va retarder le retour de ce carbone dans l'atmosphère.
Alors là où c'est clé, Marc Angré, c'est que ce point-là, justement, a été d'ailleurs très longtemps discuté au moment de la COP21, c'est de se dire, c'est le sol qui peut peut-être être la solution au problème que nous avons aujourd'hui, qui est une trop grande émission de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, dont la totalité fait que le réchauffement de l'atmosphère est en marche et depuis maintenant environ 2 siècles, et ça, malheureusement, ça ne cesse de s'accélérer. Donc, les sols pourrait peut-être être une des solutions, si on les comprenait mieux, si on les utilisait mieux, à cette captation de carbone. Une des initiatives qui avait été proposée au moment de la COP21 était ce 4 pour 1000. Est-ce que peut-être que Marc-André Sellos, ça peut paraître un peu bizarre ces chiffres, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi les sols pourraient être quand même une des solutions au réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui ?
Comme le disait Philippe, effectivement, la matière organique, elle se laisse pas décomposer facilement parce qu'elle est parfois complexe et puis parce que les microbes y arrivent pas toujours. Puis il y a des périodes de sécheresse dans le sol. Bref, il y a un certain temps de séjour avant que cette matière organique disparaisse et c'est autant de carbone qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère. D'un côté, nos pratiques comme le labour, qui aèrent le sol et qui aident les microbes à respirer, ou encore le fait que nous récoltons et que nous amenons des engrais minéraux et non plus comme avant du fumier, donc nous enlevons de la matière organique et nous ne compensons pas, tout ça a conduit les sols agricoles à être très pauvres en matière organique. Et où est leur matière organique ? Bah, elle a été respirée, elle est, comme disait Philippe, brûlée ou consommée ailleurs. Tout ça, ça fait du CO2. À l'inverse, on peut imaginer de remettre de la matière organique dans les sols. Et ça, c'est quelque chose qui, le temps qu'elle se décompose, va stocker du carbone. Il faut refaire les stocks de matière organique du sol. Alors, pourquoi ? Déjà parce que ça aide le sol à résister à l'érosion. La matière organique, ça poisse, ça colle, ça agrège les morceaux. Donc c'est quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, nos sols s'érodent, nos sols agricoles, surtout quand ils sont labourés, s'érodent 10 fois plus vite qu'ils ne s'érodent, sinon ils disparaissent, entraînés par l'eau et le vent, notamment quand ils sont nus en hiver. D'autre part, cette matière organique, elle retient l'eau. Et dans un pays qui va vers des étés plus secs, c'est vraiment important. Mais surtout, 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 cette matière organique, c'est du carbone qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère. L'initiative du 4 pour 1000 dont vous parlez, 4 pour 1000, ça veut dire 0,4%. Elle revient d'un calcul tout simple, qui fixe les idées, même s'il ne dit pas ce qui est réalisable dans le détail. Si tous les ans, on augmente de 0,4%, 4 pour 1000, la quantité de matière organique de tous les sols sur Terre, alors on a compensé tout le CO2 émis cette année-là par l'humanité dans l'atmosphère au jour d'aujourd'hui. C'est pas pour rien que le GIEC a consacré en 2019 un rapport au sol. Parce que le sol, il est, comme dit le GIEC, une solution pour le changement climatique. Aujourd'hui, nous le gérons mal et il fait de l'effet de serre. Une autre façon dont il fait l'effet de serre, d'ailleurs, c'est que quand on irrigue, les sols produisent plus de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre, respectivement 50 et 240 fois plus actifs que le CO2. Donc aujourd'hui on le gère mal et ça fait de l'effet de serre. Mais demain, en fait, c'est une solution. Et ça, c'est important. Les disciplines de l'écologie et notamment la science des sols génèrent des connaissances qui permettent d'agir. Et demain, eh bien, au lieu de planter des forêts, on peut tout simplement mettre du fumier dans les champs ou mettre les ordures ménagères qui sont organiques, après les avoir bien triées, les remettre dans les sols pour stocker du carbone. Ça coûte rien et vous avez vu que ça améliore d'autres paramètres. Des fonctionnements des sols, ça peut améliorer aussi la fertilité des sols. Oh, c'est une pure bénédiction, quoi.
On va écouter un premier témoignage qui est tout simplement de la Terre. Nous écoutons ce qu'elle a à nous dire.
Bonjour. Vous me voyez aujourd'hui avec une tête un peu chiffonnée. Bon, c'est vrai, je me sens pas très bien, j'ai des nausées. Je me sens tout raplati, crabouillé, je suis KO, au tapis. Moi, votre terre nourricière, votre sol et votre sous-sol, j'ai les nappes phréatiques tout acides, l'humus sec, la glaise fendue, les minéraux tout azotés, bref, ça va pas fort. Je me suis traîné jusqu'ici en pente douce, je viens me plaindre. Vous faites le procès du siècle. Ah, comme vous y allez, le siècle, c'est bien jeune ça. Bon alors, je suis la plaignante. Pourtant, j'ai pas la plainte facile, mais là vraiment, ça va plus. Bon, soyons concrets, aujourd'hui, on est le 7 mars, hein, le 20. Dans 2 semaines tout juste, c'est le printemps. Mais là, je crois que ça va pas être possible. Je vais pas y arriver, ça va pas redémarrer. Enfin, qu'est-ce que vous croyez, que c'est automatique, que ça marche tout seul là, en dessous ? Ben non, je ne suis pas une machine. Moi, j'ai besoin qu'on m'aime, un minimum. Et là, je suis malade et je n'ai plus envie. Ben, je vous le dis, cette année, ça ne germera pas, puis voilà. De toute façon, avec votre agriculture, là, eux-mêmes plus besoin de moi, hein, c'est du hors-sol et compagnie, je suis juste un substrat, alors continuez tout seul. Plantez-les dans du sable, vos plants de maïs dégénérés. Je sais pas, faites un aggloméré de caoutchouc avec tous vos vieux pneus, là, que vous savez pas quoi en faire. Faites un sol en plastique avec vos sacs et vos bouteilles. Vous faites de la charpie, puis vous aspergez avec vos acides et vos détergents, puis vos engrais, là, vous allez voir, ça va pousser tout seul, vos tomates, là, puis votre soja. Moi, je fais grève. Et grève des bourgeons, et puis grève de la faim. Un procès, ben je porte plainte. Je vous accuse de maltraitance, là, vous, les économistes, les chimistes, et puis les pétrochimistes, les agroalimentaires, les trusts, les spéculateurs de blé, les importateurs de bananes, allez tous dans le même sac, là. Des affameurs que vous êtes, des éradicateurs, des empoisonneurs. En quoi, était pas belle la terre ? N'était pas bien grasse, puis bien généreuse avec ses prairies, ses rivières, et avec ses forêts, ses sous-bois. Ça vous suffisait pas comme ça ? C'était pas assez pour vous ? C'était pas assez rentable ? Bon, je m'arrête là parce que j'ai de l'asthme, il faut pas que je m'échauffe. Bon, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, je vous en prie pour une fois, soyez sévères. Condamnez tous ces tordus à se remonter les manches, là, puis à y aller eux-mêmes planter des patates.
Nous avons entendu ce témoignage d'une notaire fatiguée, d'une notaire énervée qui s'est présentée comme une plaignante. Philippe Le Gall, c'est vrai que nous n'avons pas été très économes de tous ces produits phytosanitaires chimiques, depuis notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de ces produits sur l'impact qu'ils ont sur notre sol ?
Comme on vient de longuement l'aborder, le sol n'est pas seulement un milieu physique, c'est essentiellement un milieu vivant. Et donc, à chaque fois que l'on dépose un insecticide, hein, et en particulier quand on utilise des insecticides systémiques, c'est-à-dire des insecticides qui doivent être transportés par les vaisseaux de la plante, on le dépose sur la graine. Donc, on le dépose en contact avec le sol. Donc, une grande partie de ces pesticides répandus hein, par les différents appareils ou déposés dans le sol avec les graines va se retrouver en liberté dans le sol, va y passer un temps plus ou moins long. Vous savez qu'avec, par exemple, les néonicotinoïdes qui sont si décriés et qui sont encore aujourd'hui un sujet de débat intense hein, autour de la culture de la betterave, ces néonicotinoïdes ont des durées de vie pour les plus courts qui font de 3 à 5 ans. Ça veut dire que la moitié de la quantité d'insecticides va se transformer pendant une durée de vie de 3 ans. Donc en 6 ans, on aura détruit la totalité. Ces insecticides vont donc se retrouver dans le sol, vont se retrouver aussi dans ces micro-organismes, dans les organismes comme les vers de terre en particulier et les autres espèces animales qui vivent dans le sol. Et elles vont elles-mêmes transporter ces insecticides ailleurs, voire participer à la transformation. Et on a donc non seulement les pesticides qu'on dépose dans le sol, et dans le sol, ces pesticides vont se transformer en d'autres produits dont on connaît encore mal l'impact sur le vivant, donc sur les végétaux et sur les animaux. Donc le sol, à ce moment-là, va être le lieu, va être un peu comme un bouillon de culture de ces pesticides et va les remettre en circulation en dehors du système.
Messieurs les experts, expliquez-moi, la Terre a raison de se plaindre. Vous avez très tôt parlé, Marc-André Sellost, du labour. Là, nous parlons de ces fameux pesticides, insecticides, du glyphosate, etc. C'est relativement bien documenté, nous en connaissons les effets pervers. Pourquoi est-ce si difficile de changer nos usages et nos habitudes en matière agricole notamment? Pourquoi continue-t-on à labourer la terre avec ce que vous avez dit sur les rejets de gaz à effet de serre, l'usage des produits phytosanitaires dont vous venez de parler, Philippe Le Gall? Pourquoi un tel blocage face à cette connaissance désormais relativement solide?
Je peux répondre de plusieurs façons. Une première réponse que j'ai envie de vous dire, c'est parce que ce n'est pas la faute des agriculteurs. Je m'explique. Quelque part, quand il y a un marché, les produits s'écoulent et la production continue. Aujourd'hui, les consommateurs, et c'est eux que j'ai dans le viseur en fait, qui sont aussi les gens qui votent pour des élus qui font les plans d'occupation des sols et qui donc éventuellement étendent les villes sur les terres agricoles, les citoyens, les simples citoyens, c'est eux qui achètent. Je dis souvent que c'est la carte bleue qui travaille le sol. Et si ils ont commencé, et encore c'est que 10-15% du marché, à prendre conscience que certaines pratiques agricoles sont pas bonnes pour leur santé, ils sont encore loin d'avoir pris conscience du fait que certaines pratiques agricoles ne permettent pas d'entretenir les sols de façon durable et qu'ils sont en train de se dégrader. Maintenant, on peut prendre la chose différemment. On peut se dire que finalement, c'est peut-être parce que tout simplement, tout le monde, décideurs compris, agriculteurs compris, tout le monde n'a pas assez de science de vie de la terre, comme on dit, une histoire naturelle, comme nous disons au Muséum d'Histoire Naturelle, de biologie et de géologie dans sa formation, pour avoir une vision systémique des choses et savoir que quand on achète une carotte, eh bien, on fait que le sol qui la produit produira des carottes pour ses enfants ou que ce sol va bientôt arrêter de produire des carottes. Et cette vision systémique de savoir d'où vient la nourriture et le fait que l'acte de consommation a des conséquences, ça va bien au-delà de l'alimentation, bien au-delà des sols. Évidemment, aujourd'hui, il y a des textiles, quand vous les achetez, suivez mon regard, c'est de la misère humaine que vous achetez. On a besoin de cette vision systémique, on a sans doute un problème, un déficit de formation. Je voudrais aussi donner une troisième piste. Parmi les décideurs ou parmi les gens qui orientent l'évolution des pratiques agricoles, il y a des gens qui sont convaincus que l'agriculture biologique ou les agricultures dites de conservation qui sont aujourd'hui, ou la permaculture ou toute cette galaxie de pratiques qui sont organisées autour de la durabilité des sols et qui n'entament pas le capital sol lorsqu'ils prélèvent les intérêts, la récolte, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que ces pratiques sont des pratiques d'halluciner ou tordu. Je le dis sincèrement, ce qu'on appelle globalement l'agroécologie, qui consiste à faire de l'agriculture en reprenant ce qu'on sait de l'écologie, il y a des gens qui sont sincèrement convaincus que c'est des trucs de ouf. Moi, je suis convaincu que beaucoup de choses nécessitent encore d'être testées et que ces pistes ne sont bien sûr pas à coup sûr efficaces. Mais défendre le progrès d'hier en empêchant le progrès de demain, c'est une stupidité philosophique et un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, on a besoin de convaincre un certain nombre de gens que leur façon d'être indéfectiblement attaché au glyphosate, comme si on avait attendu le glyphosate pour nourrir l'humanité, ou indéfectiblement attaché aux engrais minéraux, ça ne tient pas. On a besoin de trouver les nouveaux itinéraires techniques et les variétés de plantes qui iront avec, que nous n'avons pas encore. Mais on doit à nos enfants, et on doit à la planète, mais c'est parce qu'on doit à la planète à nos enfants, de l'essayer, évidemment.
On va se décaler un petit peu pour aller en Afrique avec Philippe Le Gall. C'est un continent passionnant parce que sans doute un des continents qui tient l'avenir de l'humanité avec son enjeu démographique, un espace assez étendu. Et donc la question de son alimentation et de son agriculture est relativement clé. On a rapidement évoqué la question des différentes nouvelles formes d'agriculture, mais il y a un enjeu au-delà des sols, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme alimentation. Philippe Le Gall, vous qui êtes un bon connaisseur de l'Afrique, vous expliquez qu'il y a aujourd'hui un enjeu à ne pas perdre certaines traditions alimentaires, par exemple en Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux aujourd'hui qui se jouent par rapport justement à l'alimentation et au sol ?
L'un des grands enjeux de l'alimentation mondiale, c'est la fourniture en protéines. C'est-à-dire cette viande, ce poisson que l'on achète tous les jours. Vous voyez bien que l'océan ne peut plus fournir de poissons, il est en bout de course, véritablement. Les demandes en protéines animales, hein, en poulet, en porc, en bœuf, connaissent une croissance absolument phénoménale. Et pour produire ces animaux, on a besoin de beaucoup de production végétale, donc d'énormément de surface. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de la production de soja, mais tout le monde sait que l'Amazonie est en train de disparaître à cause du soja. L'Afrique est un grand consommateur de protéines animales et avait traditionnellement des pratiques basées sur des alimentations alternatives qu'on commence à découvrir ici en Europe, comme les insectes. Sur la Centrafrique, dont on parlait par exemple, il se rend compte que pendant les mois de présence de ces insectes, hein, parce qu'ils apparaissent pendant 2 mois dans l'année, eh bien, la consommation des populations est très importante. Pour une ville de taille moyenne, parce que Bangui, c'est une petite ville française, il faut imaginer qu'on consomme plus de 500 tonnes de chenilles, hein, de papillons par an, et qu'on consomme la même quantité de chenilles fumées, sachant qu'une fois qu'elles sont séchées, elles représentent environ 10 à 15% du poids de départ. Donc ce sont des centaines, voire même milliers de tonnes de ces insectes qui sont consommés. Et c'est une pratique traditionnelle qui peut se perdre, parce que l'un des autres problèmes des sols, c'est non seulement leur constitution et leur santé, mais c'est aussi ce qu'ils ont sur eux. Quand vous avez une forêt, quand vous avez une savane, ou quand vous avez un champ, ou quand vous avez du béton, le sol n'a plus du tout la même fonctionnalité écologique et va pas pouvoir, va pas permettre de produire toute l'alimentation nécessaire. Et en particulier, ces chenilles vivent dans des forêts. Donc, à partir du moment où on fait un changement d'usage de ces terre, que l'on passe de la forêt vers de l'agriculture, on perd beaucoup de plantes qui vont permettre de produire les chenilles. On a une disparition de la ressource qui est un risque très important. avec en plus une ressource, imaginez une population qui va doubler d'ici 2050, qui représentera la population africaine, si elle connaît la croissance actuelle, près de la moitié de la population mondiale en 2100.
Vous disiez que la viande et la consommation de viande devaient augmenter de 70% d'ici 2050. Donc on a parlé déjà de la façon de cultiver la terre, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on mange, des éléments qui sont du bétail ou de l'agriculture. Donc qu'est-ce qu'on mange de ça? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement incroyable, c'est que là aussi nous savons que l'empreinte, par exemple, d'un bœuf sur l'écosystème par rapport à l'eau qui est nécessaire pour son élevage est considérable. Et pour autant, nous assistons à une augmentation de cette consommation de viande qui dépasse l'augmentation de la population. Donc peut-être d'abord, Philippe Le Gall, pour terminer sur cette idée, puis ensuite Marc-André Sellos, comment aussi pourrait-on faire pour que petit à petit, on comprenne qu'il y a d'autres formes d'alimentation tout à fait positives pour l'être humain qui ne passent pas simplement par le bœuf, le poulet ou le porc?
Depuis quelques années, on voit apparaître des signaux qui sont encourageants. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui se sentent motivés pour aller chercher en dehors des sentiers battus des alimentations un peu différentes. Ça va être les insectes, les algues, mais aussi que peuvent nous apporter les micro-organismes, les champignons. Finalement, des aliments qui, pour certains, étaient ou peu consommés ou pas encore en quantité suffisante pour pallier à ces manques. En fait, quand on se pose la question « quel sera l'avenir ?», personne n'est capable de le dire autour de la table. Par contre, il est du devoir des scientifiques et des experts de proposer des pistes nouvelles. Et parmi celles-ci, il y aura les insectes, il y aura les algues et d'autres, beaucoup d'autres sources de protéines alternatives. Je dirais que dans 15 ou 20 ans, donnons-nous rendez-vous pour voir laquelle a été adoptée par l'homme et aura-t-elle un effet bénéfique sur notre empreinte sur l'environnement et en particulier sur la vie de nos sols. C'est pareil, nous utilisons beaucoup de ces sols pour produire des plantes dont nous ne conservons qu'une faible fraction pour notre consommation. Peut-être est-il utile d'utiliser tout ce qu'on en appelle maintenant les coproduits de l'agriculture pour les rendre beaucoup plus intéressants, par exemple en les faisant transformer par des insectes. J'ai une image qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est que quand j'étais adolescent, j'aurais jamais imaginé qu'on mangerait tous les jours et à tous les coins de rue des sushis en France. C'est quelque chose que mes parents, alors eux, ne pouvaient même pas imaginer. Et aujourd'hui, dans n'importe quelle petite ville de France, même à Gif, où je suis, qui est une toute petite commune, nous avons un restaurant de sushis. J'y mange régulièrement. Et c'est quelque chose qui est devenu abondant alors qu'on ne savait pas que ça allait être consommé. Donc le changement est possible. On le voit de la part du monde socio-économique, des agriculteurs, peut-être même d'un certain nombre de nos concitoyens. Les gens sont persuadés de la permanence de notre monde. Nous changeons constamment et on a des solutions. Il suffit de prendre les bonnes pistes pour y arriver.
Marc-André Sellos, sur cette idée de comment on arrive à faire prendre conscience de l'impact de notre alimentation sur les sols et sur nos écosystèmes.
Moi, je voudrais dire que je souscris parfaitement et je suis frappé par l'image des sushis, et en pratiquement le même âge que Philippe, je suis frappé par cette image. C'est vrai que la culture, c'est quelque chose qui, un morceau du vivant, et comme tout le vivant, ça évolue. L'évolution culturelle est une forme d'évolution biologique et on ne peut que souhaiter des évolutions des pratiques des consommateurs et des pratiques des producteurs. C'est possible. La messe n'est pas dite, l'histoire n'est pas terminée. Quelqu'un avait dit ça un jour, et c'est un ridicule fini que l'histoire était terminée. Vraiment, bon, on peut être positif, et justement, pour ça, il faut faire de la recherche. Alors, il faut savoir que cette histoire de protéines animales, elle est quand même un petit peu ennuyeuse, parce que l'OMS nous dit qu'il faut consommer entre 20 et 25 kilos de protéines, enfin de viande, par personne et par an. Or, en France, nous sommes à 100. 5 fois plus, donc aux États-Unis on est à 150. Ça va pas du tout, et d'ailleurs les modèles de développement sont affolants, parce que souvent s'extirper de la perspective de la famille ou de la ruralité, c'est manger de la viande tous les jours. Ce dont nous avons hérité, qui s'est passé ici, en France, au 19e. Donc il y a vraiment ici, il faut aller au-devant des mentalités, et on revient toujours à ça. Nous avons, nous, scientifiques, une vision du monde qui n'est pas d'ailleurs toujours homogène de l'un à l'autre, mais nous voyons d'autres choses, nous voyons un autre monde, nous voyons d'autres périls, nous voyons d'autres solutions, nous voyons d'autres choses, et il est vraiment important de former des concitoyens qui soient capables de se projeter dans ces perspectives de doute. Mais attention, de doute constructif, parce qu'on voit très bien aujourd'hui, par exemple avec les mouvements anti-vax, on voit très bien qu'on voit un doute destructeur qui nie tout, et toute solution en particulier. Il faut vraiment arriver à construire des visions du monde où il y a plus de nature, plus de mécanismes de la nature, et aussi plus de méthodes pour trier le faisable et le pas faisable. Et être aussi conscient que ce tri, cet inventaire, il va falloir le faire en continu. On n'est pas, souvent, vous voyez, on a cette idée erronée de la transition. Transition écologique, transition numérique, transition ceci, cela, c'est même un nom de ministère chez nous. Il n'est pas question dans l'histoire de l'humanité d'une transition d'un état pourri vers un état vertueux. Il est question d'évoluer, et par parenthèse, cette idée que jamais rien ne sera fixé et qu'il faudra toujours faire l'inventaire de ce qu'on a fait et des problèmes actuels pour trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles perspectives, ce qui est l'histoire de l'humanité, d'ailleurs. Cette perspective, on la comprendrait mieux si on recevait des enseignements d'évolution et nous y revoilà. Un petit Français, il a dans sa scolarité 700 heures de mathématiques et 240 heures de SVT. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas et il est mutilé dans sa capacité à faire un monde demain meilleur et notamment à s'alimenter d'une façon plus vertueuse et à balancer la part des protéines végétales et des protéines animales, d'une part, et d'autre part, des protéines en général, dans toutes les choses dont il ne mange pas assez, comme les fibres, par exemple.
Messieurs les experts, merci. Nous avons donc à nous cultiver pour mieux cultiver la terre, à mieux comprendre les mystères des sols, les bonnes vertus de certaines pratiques agricoles et aussi d'avoir conscience que ce que nous mangeons, c'est ce qui sort en effet de nos sols et nous en avons terriblement besoin. À bientôt pour un prochain grand procès du siècle.
C'était le podcast Le procès du siècle,
Délibération citoyenne.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.